1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons voir comment l'espace géographique s'organise en centre à toutes les échelles, en centre et en périphérie, sous l'effet de la contrainte de proximité. En effet, cette première loi de la géographie, nous l'avons étudiée par ce modèle gravitaire qui recensait des flux émis, polarisés par des centres et ces centres étaient de toute évidence des lieux d'accumulation et de concentration. Mais nous ne les avions pas encore définis. Pourquoi y a-t-il des centres? Nous avons plusieurs explications qui sont données, plusieurs définitions qui sont données pour la centralité. Soit c'est une forme particulière aux villes qui concentre des services à la population qu'elle dispense pour des populations plus ou moins éloignées. C'est la théorie des lieux centraux énoncée par Walter Kristaller en 1933 et qu'avait déjà bien aperçu l'ingénieur saint-simonien français Jean Reynaud dès 1841. Selon cette théorie, nous avons toujours plusieurs niveaux de centres et des centres de même niveau qui sont disséminés dans un territoire. De même, dans un réseau, nous avons des nœuds pour lesquels nous avons mesuré des centralités, soit par le nombre d'arêtes incidentes, le degré, soit par l'importance des liens qui passent par le nœud dans la centralité d'intermédiarité, soit par la distance à tous les autres nœuds, c'est l'écartement. Ces centralités, en fait, correspondent à des centralités sociales que la psychologie sociale identifie d'après la position des personnes dans des réseaux d'acteurs. Et on parle en termes de pouvoir, de prestige, de leadership dans les réseaux sociaux numériques actuels en termes de visibilité. Et puis, à d'autres échelles, dans le domaine de la géopolitique, eh bien, nous avons également un modèle centre-périphérie qui correspond à des relations de domination. Donc, si nous réfléchissons à l'origine des concentrations, nous n'allons pas la trouver dans le modèle gravitaire, puisque ce modèle, nous l'avons dit, d'abord ne concerne que des quantifications d'échanges, et en outre, il les suppose symétriques. Or, ce qui permet l'émergence de concentration, c'est le fait que les flux non seulement sont inégaux, pas tout à fait semblables entre origine et destination, et en outre, ils sont de nature souvent différente entre ce qui entre et ce qui sort, et ce sont ces petites différences, ces échanges inégaux qui construisent des centres. Le centre, il est constitué d'abord sur une sélection pour des caractéristiques particulières, par exemple de propriétés religieuses attribuées à un certain site, ou bien de localisation d'un pouvoir, ou encore des aménités touristiques ou autres favorables à des installations économiques dans certains autres lieux. Une fois que ce centre est créé, eh bien, on assiste à une très forte probabilité d'auto-renforcement dynamique de la centralité. En effet, les acteurs qui sont présents dans un lieu défini comme centre ont tendance à vouloir valoriser ce qu'ils ont déjà acquis en termes d'accumulation, que ce soit d'ordre économique, d'ordre social ou de symbolique, et ils facilite les investissements de toute nature pour renforcer l'accessibilité et le pouvoir du lieu central. En conséquence, le lieu devient plus attractif pour de nouvelles activités et aussi plus dominant dans les réseaux. On a donc une probabilité assez grande d'accumulation et de concentration dans les centres déjà constitués. Les villes, très typiquement, au cours du temps, permettent l'adaptation de lieux à des changements de nature politique, sociale ou économique en captant et en rediffusant toutes sortes d'innovations. Et elles le font dans une dynamique de concurrence, de rivalité, qui produit une hiérarchisation entre ces centres et un accroissement des inégalités entre les centres. Cette dynamique avait été bien aperçue par ce spécialiste de la Renaissance, Giovanni Botero, auteur d'un ouvrage sur la raison d'État, et qui a rédigé un opuscule tout à fait fascinant qui s'appelle « De la grandeur et de la magnificence des villes » et dans lesquels il se réfère aux stratégies utilisables par les princes de l'époque pour renforcer l'attractivité de leur ville, pour en améliorer l'aspect et le confort et aussi les facilitations économiques pour ses usagers. Donc, tout à fait, les préconisations de certains chantres des Smart Cities aujourd'hui peuvent être trouvées dès cette époque en termes d'observation fine de la dynamique des centres. De manière très schématique, Walter Kristaller en a donné une représentation, ici avec des centres de taille inégale et les limites respectives de leur zone d'influence, sous une forme hexagonale dans un espace supposé homogène. Mais ce qui compte, c'est l'organisation de l'espace par ces centres sous forme de hiérarchie emboîtée, de zones desservies par les centres. Et les zones de chalandise des centres les plus importants, qui desservent des populations et des superficies les plus grandes et qui sont des centres de niveau élevé, sont les moins nombreux, il n'y a qu'une capitale. Et en revanche, nous avons plusieurs centaines de petits bourgs qui offrent des services de niveau moins important à une population locale également moins nombreuse. Walter Kristaller a procédé à de nombreuses observations. Il a représenté ici, pour ce qui était alors l'Allemagne du Sud, un certain nombre de villes avec leur réseau de centres satellites, donc autour de Francfort, Strasbourg, Stuttgart, Zurich ou Nuremberg ou Munich. Vous avez des formes de zones d'influence qui ne sont pas tout à fait hexagonales, plus souvent triangulaires, voire pentagonales. Et c'est normal puisque l'espace n'est pas homogène, ni en termes de relief ni en termes de densité ou de richesse de population. Néanmoins, les hypothèses qu'avait installées Kristaller pour expliquer sa théorie, notamment le fait que les personnes ont tendance à recourir au service le plus proche, donc un effet de proximité très important, eh bien ces hypothèses sont encore valides. On peut aujourd'hui constituer, comme l'a fait Arnaud Banos avec ses collègues, des modèles de simulation qui génèrent des hiérarchies de petits centres moyens et de grands centres, avec un modèle informatique qui, vous le voyez, restitue assez bien l'émergence d'un semi de lieux centraux dans un territoire donné au cours du temps. Aux échelles plus larges, nous avons également des effets de centre et de périphérie. On a tout un pan à cheval sur la géographie et l'histoire qui s'appelle géohistoire et qui est notamment illustré en France par les travaux de Christian Grataloup, qui suit les organisations de territoires contrôlés par un pouvoir souverain sous forme de cité-État ou sous forme de grands empires, qui ont tendance à augmenter en dimension au cours du temps, mais avec des évolutions complexes, puisqu'on a également des fragmentations, des recompositions. Un exemple de transfert de centre est donné ici par Christian Grataloup à propos de l'Empire romain, bien centré sur Rome et couvrant les deux rives de la Méditerranée dans un premier temps, et puis qui, petit à petit, de haut en bas, sous l'assaut des barbares, va voir une deuxième capitale, Constantinople, qui était auparavant en position marginale, émerger jusqu'à devenir le seul centre du Second Empire romain. Alain Reynaud a proposé toute une typologie des centres et des périphéries à l'échelle du monde, ici pour une situation datée de 1980, dans laquelle nous avions ces blocs des États-Unis et de l'URSS qui dominaient encore l'essentiel du pouvoir à l'échelle mondiale, avec en orange des centralités plus ou moins marquées en ce sens qu'on observe également sur l'Europe ou bien dans les pays du Golfe parce que l'OPEP venait seulement de s'organiser. Ailleurs, nous avons des périphéries dans des tonalités de vert d'autant plus claires qu'elles sont moins intégrées par ces centres pour diverses formes de relations. Bien entendu, la carte du monde aujourd'hui serait différente, même si les grandes régions, notamment commerciales, ont tendance à s'organiser toujours en fonction de la proximité, qu'on pense au Mercosur, qu'on pense à l'ASEAN, ou encore à la construction de l'Union européenne, qui ici est schématisé par ces échanges économiques avec des périphéries qui, vous le voyez, finalement restent le Maghreb Machrek, les Balkans et la Russie et la CEI pour l'Union des 15 ou des 27 ou des 28 aujourd'hui. Mais avec un degré d'intégration qui ne se manifeste pas sur tous les plans, puisque du point de vue de l'espace Schengen, nous voyons une très nette réduction de la capacité des populations à migrer vers cette zone qui reste en partie fermée aux mouvements de population.